d'emploi. Mode d'emploi.
Bienvenue donc sur Mode d'emploi. Les séquences secrets de fabrication reprennent après les longues absences de l'été. Donc, secret de fabrication, l'émission mensuelle sur la vie dans les entreprises, la vie dans les services publics, pour continuer à exister et à survivre face à l'oppression patronale ou directoriale, enfin bref, la domination, quoi. Voilà, donc nous sommes bien sur 106.3 FM, RFPP, donc www.rfpp.net si vous voulez nous capter sur Internet. Voilà, donc l'émission est ouverte aux interventions, si vous voulez appeler, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai plus le numéro de la régie, mais c'est pas grave, il est partout. Il suffit que vous vous intéressiez un petit peu à notre radio, et je suis sûr que c'est le cas, sinon vous n'écouteriez pas. Voilà, alors, donc pour la rentrée d'aujourd'hui, on va se tourner vers des travailleurs et des travailleuses particulièrement isolés, notamment en tant qu'en point de départ, c'est-à-dire qu'ils commencent tous à travailler et voire même à entrer dans cette société de manière très isolée. Et néanmoins, on va démontrer que là où il y a de l'oppression, là où il y a de la difficulté au travail ou de la difficulté dans la vie, les gens s'organisent. Hein, c'est quelque chose que peut-être que Monsieur Macron n'a pas encore assez bien compris. On reviendra sur ce sinistre personnage, mais je vais laisser la parole donc à mes invités. Alors je vais faire le tour de mes invités. Donc nous avons avec nous Steven.
Bonjour.
Voilà, Steven, membre donc du CLAP, qui est le collectif
des livreurs autonomes parisiens.
Voilà, collectif des livreurs autonomes parisiens. Nous avons donc Marie.
Bonjour tout le monde.
Voilà, Marie qui est du NPSP.
Voilà, oui.
So, what is the NPSP?
Nagkakaisang Pilipino sa Pransya. It's United Filipinos in France.
Voilà, les Philippins unis de France. Donc, vous allez bientôt comprendre que Marie s'exprimera en anglais. Donc, je ferai donc votre serviteur, le camarade Bob, fera donc la traduction en direct, comme il sait faire pour une seule langue. Mais c'est la bonne. Voilà. Nous avons aussi donc Catherine.
Bonjour tout le monde.
Catherine, donc, qui est aussi du NPSP.
Oui, voilà.
Ok, très bien. Alors, sans plus attendre, commençons par notre premier invité, donc Steven. Alors Steven, je pense que tu as quelque chose à nous annoncer pour ce soir.
Oui, alors actuellement, pour ceux qui, après l'émission, voudront aller boire une bière, écouter de la bonne musique avec le CLAP, du coup le collectif des livreurs, on organise une soirée de soutien pour nous financer les grèves, financer nos tracts, financer nos différentes activités. Du coup, c'est en ce moment même dans le 11e arrondissement, au 8 rue Godefroy-Cavagnac, dans une petite salle qui s'appelle La Petite Maison. Il y a de la bière pas chère, il y a de la bouffe végane à prix libre, l'entrée est à prix libre également, et vous aurez l'occasion d'écouter 4 concerts, du rap, du rock, du punk, un petit peu de tout. Donc voilà, on vous invite tous à venir pour discuter avec nous, pour nous rencontrer, pour financer la lutte ou tout simplement pour passer une bonne soirée.
Ok, tu nous rappelles juste le nom de lieu et l'adresse?
C'est La Petite Maison, 8 rue de Godefroy-Cavagnac.
C'est à partir de maintenant et jusqu'à tard ce soir?
C'est à partir de maintenant jusqu'à tard ce soir, exactement.
C'est super. Et donc ça, c'est une soirée de soutien au CLAP.
C'est ça. Du coup, c'est pour nous financer. Ça fait quand même quelques mois qu'on existe. On a mené plusieurs jours de grève. On a fait différentes actions. Et c'est vrai que ça nous sert notamment à nous financer, à permettre d'imprimer des tracts, de pouvoir aller voir d'autres livreurs, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir nous rencontrer avec d'autres collectifs en France et aussi au niveau européen. Il y a des collectifs qui existent à Paris, évidemment, mais aussi à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. Ça commence à prendre un petit peu, et on a besoin de s'organiser, et cet argent sert notamment à ça.
Ok, c'est super, mais alors c'est intéressant parce que tu parles de grève, tu parles de financer des tracts, tu parles de contacter des gens, on dirait un travail de syndicat.
Alors nous on est un collectif, on n'est pas syndicaliste directement. Dans le collectif, il y en a qui sont syndiqués.
D'accord.
Moi je suis syndiqué à Solidaire, il y en a
D'accord.
qui sont syndiqués à la CGT. Mais en fait c'est un collectif. Dès le début, l'idée ça a été de regrouper tous les livreurs, qu'ils soient syndiqués ou non, qui travaillent chez Deliveroo, mais également dans les autres boîtes de livraison ubérisées, c'est-à-dire Stuart, Uber Eats, Foodora. Du coup de rassembler tous ces gens-là. au début, c'était sur Paris, mais du coup, ça a pris un peu d'ampleur. Maintenant, on arrive à s'organiser au niveau européen et au niveau français également, dans ces différentes villes, mais également avec d'autres pays. Et du coup, ça commence à prendre l'ampleur. On commence à réussir à faire des choses, quoi.
Ah, d'accord. Alors, et donc, effectivement, l'organisation a jailli, pas forcément spontanément. Il y a des gens qui travaillent pour ça, je suppose, dont le CLAP, justement. Mais pourquoi il y avait besoin de s'organiser? Et d'ailleurs, pourquoi... dans ce cas, pourquoi les syndicats n'ont pas une prise sur cette question a priori? Pourquoi il a fallu passer par le biais d'un collectif? Parce que, juste pour que tu rappelles un peu la situation des livreurs à vélo,
tout à fait.
C'est pas forcément évident.
Parce qu'en fait, justement, nous, les livreurs à vélo, on n'est pas des salariés classiques, mm-hmm. On n'est même pas en fait des salariés, on est auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneur, c'est un peu le nouveau gros mot qui veut dire qu'en fait on n'a pas le droit au code du travail.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait on est obligé de créer une entreprise qui porte notre nom et la boîte facture en fait des prestations à cette entreprise-là. Du coup en fait ça veut dire qu'on n'a pas le droit au SMIC évidemment, mmh. On n'a pas le droit aux cotisations sociales, c'est-à-dire cotisations chômage, cotisations retraite, on n'a pas le droit à la sécurité sociale. On n'a pas de minimum horaire garanti, on n'a pas de salaire minimum garanti. En fait, on a absolument le droit à aucun droit. Et dans ces non-droits qu'on n'a pas, il y a évidemment le fait qu'il n'y ait pas de syndicat qui soit reconnu, le fait qu'on n'ait pas le droit de s'organiser. Quand on signe notre contrat, il y a par exemple une clause qui dit qu'en fait, on n'a pas le droit de critiquer la boîte. De quelque forme que ce soit.
Les petits malins.
Donc en fait on a commencé par passer par un collectif. Mm-hmm. Quelques livreurs qui s'étaient croisés dans la rue, qui avaient discuté un petit peu et qui étaient d'accord pour dire qu'en fait il fallait rompre cet isolement. Et ça a été le premier rôle de ce collectif, de ce qu'on appelait construire une expérience collective du travail, c'est-à-dire arrêter d'être isolé. On n'a pas de machine à café ou de pause clope ensemble pour discuter. Ouais, t'as vu la nouvelle réforme du patron, la nouvelle attaque, franchement t'as vu ce qu'on est payé, c'est abusé. On n'a pas ces moments là donc on a eu besoin de ce collectif pour essayer de les reconstruire un peu, quoi.
Mm-hmm. D'accord. Effectivement, alors ça, y a y compris, alors cet isolement, la boîte en joue, hein, j'ai cru comprendre qu'il y avait des pratiques un peu vexatoires contre tous ceux qui relevaient un peu la tête, et comme les gens étaient isolés, ils s'en apercevaient pas forcément, c'est ça?
Exactement. Il y a par exemple quelqu'un dans le collectif qui a été viré parce qu'il avait ouvert sa gueule à l'époque où c'était encore isolé. Ils l'ont viré pas pour ça, parce que soi-disant il ne portait pas la veste de travail. Évidemment, en fait, ils peuvent. Le truc c'est qu'ils ont même pas besoin de trouver d'excuses pour nous virer, parce qu'en fait, pour nous déjà virer, en fait, ça sous-tendrait qu'on ait un contrat, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, ils ont juste à appuyer sur un bouton dans leur bureau et l'application se désinstalle de notre téléphone et on apprend qu'on est au chômage en regardant le téléphone, en voyant plus l'application. Et encore une fois, je précise que chômage, c'est un peu un abus de langage, vu qu'on n'y a pas le droit.
D'accord.
On se retrouve
sans rien.
Sans rien. Voilà. Exactement.
Comme au
19e siècle.
Ok. Ah oui, effectivement, donc d'où nécessité de s'organiser. Donc cette organisation a porté quelques fruits, là, déjà, si j'ai bien compris. On est qu'au début, mais ça prend, là.
On a commencé à se réunir, en gros, début de l'année, début janvier, à peu près, le temps que ça se mette un petit peu en place et tout. On a commencé par participer aux différentes manifestations qui avaient été organisées par le Front Social pendant les élections, parce que c'est un truc qui nous touchait un peu. Du coup, le fait que ce soit des syndicalistes un peu en marge, ça parle quand même beaucoup plus aux livreurs que des grosses centrales classiques CGT qui nous reconnaissent, qui pendant très longtemps en fait nous ont reconnu, nous caractériser comme des petits patrons et pas comme des salariés déguisés.
D'accord.
Et en fait, ça a vraiment pris de l'ampleur quand, en plein milieu du mois d'été, en fin juillet, il y a Deliveroo qui a envoyé un mail et qui a dit en fait, on supprime tous les anciens contrats. C'est-à-dire les premiers livreurs qui travaillaient depuis 2-3 ans pour la boîte, qui avaient un contrat, en fait, ils étaient payés avec un minimum horaire garanti, c'est-à-dire 7,50 de l'heure plus 2 à 4 euros par course. Et en fait, ils ont envoyé un mail pour dire qu'ils supprimaient ces contrats-là et qu'en fait, tout le monde passait à 5 euros la course, non négociable. En disant, si vous n'êtes pas content, trouvez-vous autre chose.
Mm-hmm. Et 5 euros sec, c'est-à-dire que pas de course, pas d'euros, quoi.
Exactement, exactement. Et sachant qu'en fait, dans notre travail, vu qu'on est dépendant des commandes qui sont passées, il peut avoir des fois 2 heures, 3 heures, si on n'est pas dans les heures pleines, où il n'y a pas de commande. Où en fait, on est en train de galérer à République avec notre gros sac et on attend sur notre téléphone qu'une commande veuille bien arriver. Donc c'est en fait une généralisation du travail à la tâche. Que nous on a en fait tout de suite dénoncé, et c'est vrai qu'il y a eu une grosse colère en fait chez tous les livreurs, et notamment les plus vieux qui travaillent en fait, qu'on fait vivre la boîte, qu'on construit la boîte et qui sont remerciés de cette façon-là. Et on a du coup fait une grève début août, une première expérience de grève Mais du coup, enfin, quand je dis grève, on a dû un peu repenser comment on fait la grève, parce qu'en fait, on peut pas faire une grève classique comme d'autres salariés ont la chance de pouvoir faire. Par exemple, c'est un truc qui est arrivé en Espagne. Des copains de Barcelone avaient, en gros, sur les mêmes questions, début juin, avaient fait une grève où en fait, pendant leur temps de travail, ils s'étaient déconnectés de l'appli tous ensemble, ils s'étaient réunis sur une place avec des syndicats, des drapeaux, ils avaient fait des tours de parole pour expliquer leur situation. Et en fait, avant la fin des tours de parole, les 25 livreurs qui étaient présents avaient été virés.
D'accord. Comme ça, c'est net.
Comme ça, c'est clair, c'est sur notre possibilité de discuter. Oui. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est en fait, on s'inscrit pas quand on fait la grève. Du coup, vu qu'on est obligé de s'inscrire sur des plannings pour travailler, on s'inscrit pas. Du coup, ils peuvent pas en fait savoir qui sont les livreurs qui sont déconnectés et lesquels sont participent au mouvement. Et on se réunit sur une place. Notamment là, le 11, c'était notamment République. Mm-hmm. Et on est allé en manif sauvage pour aller bloquer des restaurants. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on va devant un restaurant, on chante des slogans et on empêche toutes les commandes Deliveroo, Stuart, Foodora de sortir de ce restaurant-là jusqu'à temps que le restaurateur coupe sa tablette. Mm-hmm. Ce qui a l'avantage en fait de faire perdre de l'argent à Deliveroo. Ce qui lui met une pression, parce que si on met pas de pression économique, c'est très difficile, on passe pour des rigolos. Et en plus, on lui met une double pression, parce que le restaurateur, de son côté, appelle la boîte et dit, ils sont bien gentils vos livreurs, mais si ils commencent à me bloquer mon resto tous les vendredis soirs, on va peut-être arrêter notre collaboration. Mmh, du coup, ça permet de mettre une double pression, et sachant que, enfin, on s'en prend pas aux restaurateurs du tout. Nous, on y va de manière très très calme.
Oui,
on n'empêche pas les clients lambda qui sont dans le restaurant d'aller manger et tout ça. On a en fait des très bons rapports avec les restaurateurs qui comprennent bien en fait notre situation, notre exploitation, et finalement en fait c'est des gens avec qui on parle pas, alors avec qui on travaille tous les jours, mais en fait le seul truc qu'on échange c'est un numéro de commande, c'est 3320, oui c'est moi, et hop tu repars sur ton vélo ou sur ton scooter.
D'accord.
Et ça permet aussi d'échanger entre livreurs, le fait de pouvoir discuter, en fait, enfin, on se croise pas juste deux minutes entre deux commandes. On peut vraiment discuter, on peut vraiment échanger sur nos conditions de travail. Les primes pluie, t'as vu, toi non plus, tu les as plus. Sur plein de trucs, toi non plus, t'arrives pas à t'inscrire sur les plannings. Enfin, beaucoup de trucs, en fait, on n'a pas l'occasion d'en discuter. Ça permet aussi ça. Donc, il y a quand même ces trois axes-là qui sont intéressants dans les mouvements qu'on a fait.
Et sur ce mouvement-là, celui que tu viens de décrire, hein, donc en août, là, ça a été quoi la réaction du taulier là? Parce qu'il était pas content, je suppose.
En gros, ce qu'ils ont fait, on avait fait pas mal de médiatisation pour essayer de parler en fait des véritables conditions de travail chez Deliveroo, chez Uberisation, chez ces boîtes là en fait, pour un peu casser le discours ambiant de ces petits jeunes qui sont contents d'être leur propre patron, qui travaillent quand ils veulent et qui sont pleins d'argent facilement, qui a été plutôt une réussite. Et en fait, il y a eu un silence radio de la part de Deliveroo pendant une semaine et demie. Et ils ont fait un communiqué totalement mensonger, nous accusant de pas travailler pour Deliveroo,
enfin, vous étiez de dangereux éléments extérieurs.
Le communiqué anti-grève classique, quoi, où on est dangereux, où on est minoritaire, où on représente personne, le communiqué classique. Et c'est pour ça qu'on a fait en fait une deuxième journée de grève le 27 août. Pour justement dire on se mobilise, on a envie de sauver nos emplois, on n'a pas envie d'être payé à la tâche, on a fait une deuxième journée de grève qui, en fait, vu qu'on avait chopé un peu l'expérience de la première journée, on avait réussi à se rencontrer, à lier des contacts, à se faire confiance, parce que c'est aussi ça qui est important, à développer du coup ce que je disais, une expérience collective du travail, une conscience de classe, chacun peut appeler ça comme il veut, mais recréer du lien. Et en fait, là, cette fois, on a réussi à faire différents groupes qui partaient à vélo, bloquer des restaurants, bloquer un restaurant. Une fois que le restaurateur a coupé sa tablette, du coup, couper les commandes pour la soirée, on allait dans un autre restaurant avec plusieurs groupes comme ça qui se baladaient dans Paris. Et du coup, pour là, vraiment faire perdre beaucoup d'argent à la boîte, sachant qu'on avait réussi à se coordonner pour qu'il se passe la même chose à Bordeaux, à Lyon et à Nantes en même temps.
D'accord.
Du coup, cette soirée-là, on avait bloqué une quarantaine de restaurants.
Donc sur les ordinateurs, là, ça commençait à avoir des voyants rouges un peu partout, quoi.
Là, ça commençait à plus trop rigoler, quoi. Ouais. Du côté des patrons, et on avait réussi du coup à négocier un rendez-vous le lendemain pour discuter et voir comment on pouvait trouver une solution à ça. Et le lendemain, donc, on se réunit à République, on fait une manif avec tous les livreurs, avec des soutiens, avec des syndicats, le Front Social, tous ces gens-là, et on va jusqu'au siège de Deliveroo, et on a le malheur de tomber en fait seulement sur un camion de CRS qui nous bloque la route. Comme bien souvent,
comme des vrais syndicalistes,
comme des ouvriers classiques.
Voilà.
Michael Wamen a la même expérience.
Voilà.
C'est bien, ça nous lie avec les autres secteurs du travail. et qui refuse totalement de nous voir. Du coup, ce qu'on a fait derrière ça, c'était un lundi, ça, le mercredi, on a envahi du coup les locaux de Deliveroo.
Il n'y a pas de raison.
Faut qu'on discute, quoi. Vous nous avez promis un rencard, vous le faites pas. Faut qu'on discute. En fait, très rapidement, du coup, on envahit le locaux, on dit on veut parler au patron, il est pas disponible et tout. Bon, très bien, on reste, nous on a pas grand chose à faire. Pour 5 euros la course, on perd pas notre temps, vous inquiétez pas. Mm-hmm. Et du coup, au bout de quelques heures, on arrive à prendre rendez-vous. Du coup, on le rencontre le vendredi. Ce qui a donné lieu à un début de discussion qui, en gros, donne le fait qu'en fait, aucun livreur mobilisé ne sera sanctionné. Et ce qui est plutôt une bonne chose,
ce qui est très important.
Mais ce qui reste une parole de patron, donc on continue à faire attention, à être vigilant et on essaye de pas se faire avoir sur ces trucs-là. Le deuxième truc, c'est que là, on est en discussion avec des avocats que des syndicalistes nous ont prêtés et des avocats de la boîte pour en fait réussir à avoir un espace pérenne de discussion, de représentativité du personnel.
Un cadre
de négociation qui soit pérenne et qui soit démocratique et qui et du coup qu'on soit pas obligé d'envahir les locaux tous les deux jours pour pouvoir discuter de nos conditions de travail. Ce qui est la deuxième chose et une troisième chose qu'on a gagnée, c'est une assurance payée par la boîte pour l'ensemble des livreurs.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tous les gens que vous croisez dans les rues à vélo ou en scooter, il y en avait entre 60 et 80% qui roulaient sans absolument aucune assurance.
Ah d'accord.
C'est-à-dire que quand on a un accident, c'est pour notre pomme. Autant les frais de réparation du vélo,
Y compris le tiers.
Moment où on se fait où on peut pas travailler, on a rien du tout. Enfin vraiment tous les frais étaient pour notre pomme quoi.
Ouais.
Du coup là on a une assurance, ce qui n'est absolument pas suffisant parce qu'en fait c'est une assurance, c'est un partenariat Deliveroo AXA. Le capitalisme s'en sort toujours pour réussir à faire du bif même dans les luttes des travailleurs. Et nous, ce qu'on revendique, c'est d'adhérer à la sécurité sociale, pas une assurance privée, mais qui reste tout de même une bonne chose parce que ça protège des livreurs, des jeunes étudiants, des mecs de quartier populaire qui vont jamais payer 50 balles par mois en plus de toutes les charges qu'on a pour avoir une assurance. Et le meilleur moyen, en fait, de protéger les livreurs, c'est d'en finir avec le travail à la tâche. C'est d'avoir un salaire minimum, parce que quand on est resté 2 heures sans travailler et qu'on n'a rien gagné, quand on a une commande, le but c'est d'aller le plus vite possible pour espérer en avoir une autre derrière et pouvoir en fait rentrer chez soi en ayant gagné plus que 15 euros en 5 heures de travail. Et du coup, avoir un minimum horaire garanti, parce que c'est quand on a du travail à la tâche, quand on est payé 5 euros par livraison, qu'on est obligé d'aller le plus vite possible, c'est-à-dire griller des feux, prendre le maximum de risques sur la route, prendre des sens interdits et toutes ces choses-là. Du coup, c'est une bonne chose, mais on lâche rien et on continue la mobilisation, évidemment, quoi.
D'accord. Alors, je vois que vous êtes très déterminé, donc ça, c'est tant mieux. Donc, le CLAP continue ses activités, si j'ai bien compris. Alors, déjà, la soirée de ce soir,
La soirée de ce soir, voilà, qui va nous servir à financer pour pouvoir continuer nos activités. On participe évidemment à toutes les manifestations contre la loi travail XXL.
D'accord. Hier, vous étiez dans la rue.
Hier, on était dans la rue. On était là le 12 également. Parce qu'en fait, ça nous touche aussi. Bon, il y a 2-3 trucs que je vais pas détailler qui nous touchent directement, qui sont un peu compliqués, un peu techniques.
D'accord.
Mais bon, l'idée, c'est que comme tous les autres salariés, on se fait avoir. Mais surtout qu'en fait, c'est une généralisation de la précarisation de tous les travailleurs. Et que pour nous, qui voulons justement accéder à plus de sécurité, plus de droits, un salaire décent, des conditions de travail décentes, c'est ce nivellement vers le bas, ça va à l'encontre de notre lutte et de notre et de ce vers quoi on veut tendre. Du coup, il y a une solidarité évidemment qu'on essaie de développer avec l'ensemble du reste du monde du travail plus classique on va dire, mais également par exemple avec les emplois aidés qui sont supprimés, qui sont des travailleurs précaires tout comme nous, qui peuvent du jour au lendemain voir leur emploi supprimé. Du coup on essaie de pas rester isolé dans notre lutte, de voir un peu plus loin, et de évidemment du coup on participe à toutes ces initiatives là. Et en plus, là, le mercredi prochain, le 27 septembre, on organise une autre soirée de manifestation et de rassemblement avec peut-être des actions. On n'en dit pas plus pour le moment. On en parle juste avec les livreurs. Mais du coup, ça va se passer à Paris, à Lyon, à Nantes, à Lille, à Bordeaux, mais également dans 6 pays européens, vu qu'en fait, depuis août, on a réussi à s'organiser avec d'autres collectifs de livreurs qui sont à Berlin, qui sont à Londres. Du coup, il va y avoir la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas qui, ensemble, mercredi soir, vont se mettre en grève au même moment sur les mêmes revendications contre en fait la précarité des livreurs à vélo. Ça va toucher toutes les boîtes, On pense que c'est important de pas juste s'attaquer à Deliveroo, même si, par exemple, à Paris, il est quasiment hégémonique sur le marché.
Mm-hmm.
Mais parce que, en fait, si on arrive à gagner des droits sur une autre boîte, toutes les autres boîtes vont être obligées de les appliquer pour pas que les livreurs se cassent. Du coup, pour nous, c'est vraiment important, en fait, de réussir à globaliser ces luttes-là. Du coup, à le faire au niveau européen avec tous les... Ce qu'on a un peu envie de dire, ce qu'on dit, c'est que leur exploitation, elle a pas de frontières et qu'il faut que notre solidarité et notre résistance, elle en ait pas non plus. Sinon, on va se faire bouffer.
Alors, si je comprends bien, des patrons qui voulaient absolument isoler chaque travailleur derrière son vélo, ils se retrouvent avec un mouvement transeuropéen, international, couvrant plusieurs pays et plusieurs boîtes.
Exactement.
Bah, c'est réussi.
C'est plutôt une réussite. On espère que le 27, on sera nombreux et on invite tous les gens qui veulent venir à nous soutenir.
Est-ce que tu as un lieu et une heure à Paris?
Ça sera à 19h30 au métro Sentier pour Paris.
D'accord. 19h30 métro Sentier. Donc, on rappellera ce rendez-vous. Alors, c'est très intéressant parce que je vais passer à une autre, donc, de mes invités. Qui a aussi quelque chose à nous dire sur le mercredi 27, comme on va voir. Alors, je vous présente donc de nouveau Marie. Alors, Marie, je vais poser les questions en français et je traduirai tes réponses. Donc, la première, c'est est-ce que tu peux te décrire et comment tu es venue en France?
Okay, I'm Marie. Mm-hmm. I'm a Filipino migrant living here in Paris for almost a year now.
Donc, je m'appelle Marie, je suis migrante philippine, je vis à Paris depuis presque un an maintenant.
And I was forced to migrate here in France due to economic and political condition in my country.
Mm-hmm. J'étais obligé de quitter mon pays à cause de mes conditions économiques et de difficultés politiques aux Philippines.
Yes, my mother was here working 15 years and it's just recently that she was able to obtain her papers.
Ma mère travaille ici depuis près de 15 ans et ce n'est que très récemment qu'elle a pu avoir ses papiers, par exemple.
And that's why I have to be here in order to support her as well, mm-hmm, and to help her with our finances.
D'accord. Donc je suis aussi ici pour l'aider, la soutenir, y compris financièrement.
And I believe it's the same situation that my compatriots are experiencing here in France.
Uh-huh. Donc c'est une situation que nombre de mes compatriotes sont en train de vivre en ce moment en France. Mm-hmm.
The main struggles that we are facing is we are not being declared of work. Mm-hmm. It's making it hard for us to fix our papers.
Mm-hmm. Ah oui. Alors, notre problème principal, c'est que notre travail est très rarement déclaré. Et la conséquence de ça, c'est qu'en plus, c'est difficile pour nous, puisque le travail n'est pas déclaré, de nous faire régulariser.
And what shocked me when I arrived here in France is knowing the stories of the Filipino community wherein they experience abuses and oppression in their work.
Mm-hmm. Et ce qui m'a le plus choqué en venant ici en France, c'était d'apprendre que la communauté philippine était très exploitée et qu'il y avait même des abus au travail flagrants. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples?
So, for Filipinos, they normally work in houses. Mm-hmm. So we are very isolated. During my stay here with our organization, United Filipinos in France, even though it's just a year now, I get surprised with the stories that we receive, Filipinos yes, not being yes, able to paid properly.
Mm-hmm. Alors, il y a pas mal de situations qui peuvent être assez graves. Moi, depuis le peu de temps que je suis ici à l'association donc des Philippins en France, je m'aperçois qu'il y a énormément de cas, par exemple, de non-paiement de salaire, donc où les femmes de ménage, car c'est essentiellement des femmes de ménage, ce sont essentiellement des gens qui travaillent chez des particuliers. Les cas de non-paiement de salaire sont très fréquents, c'est parfois difficile, ne serait-ce que d'être payé pour le travail fait.
And it pains me to see this kind of condition, not only for myself, but also to the Filipino community that we have to hide ourselves. Our labor are not recognized in the society. And because of being sans-papier, it makes us more vulnerable to be exploited and abused.
Mm-hmm. Alors, ça me fait de la peine, mais pas seulement pour moi, mais pour toute la communauté philippine en France, car on est obligé de se cacher, on est même dissimulé par nos employeurs. On n'est pas reconnu par aucun pouvoir public ni par l'opinion. Les gens ne savent pas qu'on est là et ça nous rend, le fait qu'en plus on soit très souvent sans papier, ça nous rend extrêmement vulnérables à toute forme d'exploitation et d'abus.
And what makes it even harder is no one's checking on our working conditions. If we get paid the right payment per hour, if we get right working hours, and if we are being declared by our patrons.
Mm-hmm. Alors, ce qui est particulièrement difficile, c'est qu'il n'y a vraiment personne pour vérifier nos conditions de travail, pour vérifier nos heures de travail, pour vérifier si on est correctement payé par nos patrons. On ne sait pas vers qui se tourner. Have you thought about labor inspection? Vous avez pensé à l'inspection du travail?
That's a good question. Being part of our organization, we are able to think on how we are going to empower our communities. And that's the reason we seek help with labor inspectors. We were able to conduct a labor rights seminar wherein the Filipino community were able to know their rights, were able to share their common experiences at work. And I believe that the inspectors with us during those seminars were actually shocked to be able to hear directly the stories of abuses of my fellow countrymen here in France.
Alors, c'est une bonne question si on s'est tourné vers l'inspection du travail. En fait, oui, pour mieux prendre en compte les conditions de travail et aussi redonner du pouvoir d'agir à notre propre communauté, on a cherché de l'aide, y compris auprès de l'inspection du travail. Notamment, on a organisé un séminaire communautaire autour de la question du travail et des droits du travail. Et là, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur les conditions de travail, les conditions d'emploi. Et je pense que les inspecteurs et les inspectrices du travail qui étaient là lors de ce séminaire ont été profondément choqués de s'apercevoir qu'ils ne voyaient pas eux non plus des abus contre lesquels ils sont supposés lutter et qui étaient hors de leur portée.
And another struggle is mainly also the language, which makes it harder for us to communicate and adapt with the community.
Mm-hmm. Oui, alors évidemment, il y a la barrière de la langue. There are not a lot of Filipinos speaking French.
I believe so, but Filipinos are striving hard. There are associations, some Filipino associations, they offer French languages classes. Mm-hmm. That's how they also organized the community.
Ok. Alors, ben non, en fait, parce que les Philippins donc ne parlent pas dans leur grande majorité français, ils se retrouvent encore plus isolés, encore plus démunis avec la barrière de la langue qui, en France, vient poser de graves problèmes. Alors, c'est pour ça qu'une part de l'organisation, enfin, une partie du travail d'organisation, c'est aussi d'organiser des classes de français, parce que des efforts sont faits pour apprendre le français. Et c'est aussi comme ça qu'on organise la communauté. C'est en faisant se rencontrer les gens lors de classes de français, par exemple. Alors, ces gens sont organisés. Comment sont-ils organisés? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous présenter donc ton organisation, le NPSP, à plus de détails que juste à l'introduction?
With our organization NPSP, we try to hold activities wherein we get to share our stories to know more on our experiences and maybe to relate to each other. Our upcoming plans right now is to actually do a publication to feature the stories of Filipino migrants here in France.
Ok. Alors, une bonne part de nos activités sont des tables de parole, des groupes de parole pour permettre d'échanger sur les expériences de la communauté, pour pas justement être isolé et permettre d'échanger donc sur ce que vivent les Philippins en France. Et donc, cet élément important, ça nous permet d'envisager donc bientôt une publication. On voudrait faire une publication avec des témoignages dedans qui permettent d'éclairer sur la situation des Philippins en France. Publication in French.
It's going to be in French and in English, and some would be in Tagalog, so it's actually three languages.
D'accord. La publication sera en français et en anglais, et avec une partie en Tagalog, donc qui est la langue commune des Philippines. It's common language in Philippines.
Yes, in Philippines. It is.
Okay. Donc c'est bien la langue commune des Philippines, le Tagalog. Et donc, ce sera une publication, une brochure en trois langues, pour que tout le monde puisse s'en emparer.
So we are very hopeful that with this kind of activities that we do, the French community would also be aware of our struggles, especially also the working class.
Mm. Et donc, il y a évidemment l'importance de ce travail et que la communauté tout autour, la communauté des Français ou des francophones, soit au courant de notre combat et au courant de notre situation et de notre volonté de nous en sortir, et spécialement les organisations du mouvement ouvrier, qui sont premièrement concernées par ce que nous vivons. Et donc, se faire entendre et se faire comprendre de ces organisations est un point crucial.
And being a minority group here in France, we have to acknowledge that it's really hard. It has been hard to organize, but we are able to see the need, the dire need of our community, that someone has to speak up and to raise our voices. That's why we try to initiate activities like this.
Mm-hmm. Et oui, et donc il y a un besoin énorme en tant que minorité en France hein, de se faire reconnaître, et donc il faut qu'il y en ait parmi nous qui élève la voix et qui se fasse entendre. Et c'est aussi pour organiser cette prise de parole, pour organiser cette apparition que nous menons nos activités pour se faire entendre et se faire voir. Now, could you tell us more about the working conditions? What are some of the, I don't want to do anything voyeuristic or anything, but what are the conditions, labor conditions of Filipinos in situation? Alors, pourriez-vous me dire plus sur leurs conditions de travail, hein, sans faire de voyeurisme? Par exemple, pour qui et comment travaillent-ils? Où est-ce qu'on les trouve, ces femmes, puisqu'elles sont grosso modo invisibles? Et donc, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'elles travaillent?
Normally, Filipinos work as part-timers or full-timers. Mm-hmm. When you're full-timers, you get to have one patron only, wherein you get to work every day, like Monday to Friday. It's sad because normally majority of the condition is we're not being declared. So Filipino workers are only agreeing to have verbal agreements with their patrons. Mm-hmm. They're not fully aware if these agreements are actually following the laws to protect workers. Mm-hmm. Sometimes you get verbal agreements wherein you only get to pay $800 a month and then babysitting would be for free. Mm-hmm. And Filipinos are forced to actually agree, even though they are aware of themselves that it's really an unfair agreement between the employers and employee, because there is a great need as well to support their families back home. Mm-hmm. Because Filipinos here are normally the breadwinners as well of the families in the Philippines.
Mm-hmm. Alors, il y a des salariés qui travaillent à plein temps et d'autres à temps partiel, mais même pour celles qui travaillent à plein temps, c'est un crève-cœur parce que la plupart du temps, c'est de façon non déclarée. Et c'est donc pas dans les clous des règles habituelles, du service à la personne, par exemple. La plupart des Philippins et des Philippines qui travaillent dans ces conditions-là, hein, n'ont que des accords verbaux avec leurs employeurs, et ils n'ont aucun moyen de vérifier si ces accords verbaux sont légaux ou non. Ils sont obligés d'accepter ce qu'on leur donne dans leur isolement. Alors, par exemple, ça peut donner des choses comme un temps plein sur une semaine à 800 euros par mois avec le babysitting gratuit, hein, puisque c'est pas le cœur du métier, comme on dit. Donc, il est externalisé vers la même personne, mais ça fait pas assez pour vivre. Alors, à cela s'ajoute le fait que les besoins sont importants, parce que beaucoup de Philippins et de Philippines en France sont en fait des pourvoyeurs d'argent pour leur famille au pays. Donc, ils renvoient de l'argent, et quand le salaire est vraiment trop maigre, on peut rien envoyer du tout, quoi.
And I must say that there are actually some employers who are nice in treating Filipinos as well, who actually follow the rules as well. But this should not be a band-aid as well to the majority of Filipino situations that are not having the same experiences.
Mm-hmm. Alors, il y a bien sûr des employeurs qui sont plus corrects, qui traitent bien leur femme de ménage, par exemple. Mais ça ne doit pas être un masque ni un emplâtre sur la situation de la majorité des Philippines et des Philippins qui, eux, vivent dans des situations très difficiles. Et c'est pas parce qu'il y a quelques exemples de bons employeurs dans cette situation-là qu'il faut ignorer la majorité qui, là, est pour le coup durement exploitée. NPSP, how old is NPSP?
It's 3 years now.
Donc le NPSP, l'organisation des Philippins en France, a maintenant 3 ans. And recently you came to meet a campaign which crosses those boundaries. Donc vous avez récemment rencontré la campagne des travailleurs sans papiers et de l'inspection du travail qui demande la régularisation des travailleurs sans papiers. Comment vous les avez rencontrés et quels sont les espoirs que vous placez dans cette rencontre?
Since we are able to organize labor rights seminar with the labor inspectors, it also opened the door of opportunity for us to know a current labor campaign We've learned that it has been 2.5 years now for undocumented workers. And we were very delighted to have heard this kind of news. It gives us a little hope with our conditions on how are we going to uplift the community that we belong to, which is undocumented workers. Mm. And we support definitely this kind of campaign.
Ok. Alors, on a eu la chance, à travers justement le séminaire dont j'avais parlé sur le travail et les conditions de travail, on a eu la chance de rencontrer, donc de croiser la route de la campagne contre le travail noir et pour la régularisation des sans-papiers. Alors, on était très heureux parce qu'on sait que le mouvement sans-papiers a plus de 20 ans en France. C'est quelque chose qui a quand même son poids. Et on était très contents par le biais de la campagne de rentrer en contact avec le mouvement sans-papiers, puisque nous-mêmes, nous sommes des travailleurs sans-papiers et que donc, on est directement concerné. Donc, tu as une date? Do you have a date for us?
Yeah, but let me just also add that it is also nice to know that there are collectives, same with our struggles, and there are collectives who are also one with us as well. It gives us hope and inspiration to alleviate the conditions that we have right now.
Eh ben, avant de parler un peu date et rendez-vous, je voulais surtout dire que ça nous a fait un grand bien de savoir qu'il y a d'autres collectifs comme ça de sans-papiers qui sont organisés et qui se battent pour les mêmes causes que les nôtres, et ça nous donne de l'espoir dans notre propre bataille pour améliorer les conditions de vie de notre communauté de Philippins en France. Voilà, donc on est très content de participer à la campagne et donc de rejoindre le courant.
So we also actually, let me take this opportunity as well to inform the listeners of your radio program that we will be having a gathering on Wednesday, September 27. It's going to be 2 p.m. in front of Ministry of Labor. It's Metro Varennes.
Mm-hmm.
I hope I pronounced it correctly.
It's okay, I'll translate.
So there, we firmly believe that through these collective actions, there is hope that our voices will be heard by the government.
Mm. Alors justement, donc ça me donne aussi l'occasion de rappeler qu'on a une date commune avec cette campagne, donc mercredi 27, tiens, le même jour, donc à 14h cette fois-ci, donc au métro Varennes, c'est-à-dire devant le ministère du Travail, il y a un grand rassemblement donc de l'inspection du travail et des travailleurs sans papier où nous serons présentes, parce que c'est ce genre de choses, de travailler avec d'autres collectifs, de rejoindre des campagnes encore plus larges, qui nous donne de l'espoir de se faire entendre par le gouvernement et par le ministère du Travail, qui sera bien obligé de nous ouvrir la porte. Voilà. Donc on a deux rendez-vous le même jour, et ils ne sont pas concurrents pour deux raisons très simples. D'abord, un, ils sont pas à la même heure, mais ils sont dans, tous les deux dans Paris, donc on peut se rendre de l'un à l'autre d'une part, et d'autre part, on verra à la discussion après le morceau musical qu'il y a de très forts liens entre les deux combats que nous venons de décrire.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be the first one. Now will later be last, for the times they are a-changing.
Ok, nous voici donc de retour sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, www.rfpp.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. Donc le secret de fabrication aujourd'hui, nous allons, après avoir exposé les luttes donc des bikers à vélo de Deliveroo et donc des travailleurs philippins et philippines du NPSP, on va essayer de voir ce qui est en commun, ce qui est partagé par des luttes comme ça pour organiser des travailleurs très isolés pour diverses raisons. Voilà. Et d'abord, je voulais commencer par redonner la parole à Steven. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'a dit Marie pour ce que...
Moi, ce que je trouve très intéressant, je connaissais pas du tout la lutte, j'en avais pas du tout entendu parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, des deux côtés, enfin, de votre lutte et notre lutte, on part un peu du même point, même s'il y a des grandes différences. On est très isolés, c'est très difficile de se mobiliser. Mais en fait, on a un peu eu la même stratégie qui a été d'essayer de voir d'autres secteurs, vous avec d'autres groupes de, enfin, qu'en parallèle, en fait, sans avoir connaissance des luttes des uns des autres, on a un peu pris ce même chemin d'essayer de sortir de l'isolement. sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je comprends.
Donc Catherine, donc aussi du NPSP. Oui.
Oui, c'est ce que je remarquais aussi, mais en fait, la communauté des Philippines, en fait, on s'organise plutôt parfois sur Facebook. En fait, c'est un moyen de s'organiser. Et du coup, c'est pas du tout, sociopolitique en tant qu'organisation. Parce qu'en fait, c'est que, voilà, est-ce qu'il y a un travail à Paris? En fait, on a beaucoup de pages sur Facebook pour les travails ou pour les business. Voilà. Et en fait, c'est un moyen de s'organiser, mais je trouve que en fait, on a besoin d'une organisation qui en fait lie voilà le loi de travail et puis voilà. Et c'est pour ça l'organisation et ça pour faire connaissance de la lutte des Philippins.
Et vous aussi sur Facebook?
Oui, tout à fait. C'est vraiment en fait un peu le même déroulé parce que nous au départ le CLAP il est né. Il y avait différentes pages de coursiers qui existaient où on se tenait au courant. Où en fait j'arrive pas à faire ça. La facture que j'ai reçue c'est ça. J'arrive pas à m'inscrire. Où en fait on s'entraidait de manière très concrète. Et puis en fait très rapidement quand il y a eu des attaques et on a commencé à parler un petit peu politique et à déborder en fait juste une entraide. Une entraide très concrète et en fait il y avait des patrons qui étaient sur ces pages-là et qui repéraient les livreurs qui ouvraient un peu trop leur tête et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'est né un peu le CLAP. Si on devait faire une généalogie ça serait un peu comme ça parce qu'on a eu besoin de se rencontrer en vrai, de discuter dans un endroit un peu plus safe quoi, un peu plus tranquille où on pouvait justement aller un peu plus loin et dépasser les trucs. Et là par exemple les mobilisations qu'on a réussi à mener en parallèle avec d'autres villes et en commun avec d'autres villes et là le mercredi avec d'autres pays européens, on s'est organisé aussi grâce à Facebook, grâce à WhatsApp et on a échangé, on s'est contacté comme ça. Donc c'est assez drôle que justement il y ait ce parallèle-là, en fait, qu'on est que...
Y compris dans les manières de communiquer la première fois, de rentrer en contact.
Ouais, ouais.
Mais en fait, c'est que le problème avec la communauté philippine, c'est qu'on s'organise pour trouver le travail, en fait, et pour notre propre business, tu vois, parce qu'en fait, à part de notre travail, et on a on vend des choses pour gagner un sou, quoi. Et du coup, c'est ça ce que j'ai observé sur toutes les pages de Facebook. Je voudrais parler aussi, parfois, il y a, par exemple, dans mon côté, en fait, je suis dans le page des Philippins qui sont mariés avec un Français. Et du coup, on s'aide pour les pièces fournies ou pour la situation de la préfecture. Et du coup, ça, pour moi, ça m'aide beaucoup en tant que, épouse d'un Français, quoi. Parce que, aussi, j'ai vécu un moment que c'était vraiment dur. Même en tant que papier, une personne qui a un papier, même pour moi, c'est dur. Parce que, t'as un grand queue.
Ah oui, une grande queue, d'attente à la préfecture. Et là, on peut dire que les derniers développements, ils ont supprimé les files d'attente parce qu'il faut s'inscrire sur Internet. La boucle est bouclée.
Oui, sur Internet. Mais en fait, il y a quelques préfectures qui
c'est un vrai sujet.
Oui, qui restent. Oui. En fait, c'est pour ça que je lis les articles sur ça aussi. Mais en fait, pour moi, en tant que personne qui a un papier, je peux aider les sans-papiers en fait pour s'organiser comme ça sur les choses un peu plus concrètes, par exemple comme les pièces fournies ou des choses comme ça. Et on peut bien sûr communiquer sur Facebook. Marie a déjà parlé de notre publication en fait, et surtout on voudrait mobiliser la communauté avec la publication qu'on va faire. Et on est en train de créer notre publication et on espère que ça va marcher.
Un journal des bikers bientôt ?
Non, pas pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Mais par exemple, un truc là auquel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, c'est qu'il y a aussi des sans-papiers qui travaillent pour ces boîtes-là, Deliveroo et tout, de manière, enfin, très caché, parce qu'en fait, notamment les jeunes qui travaillent dans les quartiers populaires, en fait, il y a souvent un mec un peu débrouillard qui a fait les démarches et les papiers et qui a réussi à avoir qui travaille officiellement. Et en fait, son téléphone, il va tourner dans les mains de 5, 10, 15 personnes qui vont se relayer, se prêter le scooter, le vélo pour travailler. Et après, ils se débrouillent un peu entre eux. Mais il y a aussi des travailleurs sans papier dans ces nouvelles économies modernes, comme pourrait le dire Macron, c'est un truc qui sait pas du tout, dont on parle très rarement, mais c'est un truc qu'on s'est rendu compte, même nous on le savait pas forcément, en allant d'y faire des tracts devant les restaurants pour appeler à des mobilisations, où en fait il y avait des mecs qui nous disaient non, moi je peux pas venir, j'ai pas de papier, je suis déjà beaucoup trop précaire, c'est...
Alors là, j'interviens pour le compte de la campagne contre le travail au noir et pour la régularisation des sans-papiers. C'est que ce que tu décris là, c'est tout simplement le cas d'énormément de salariés, par exemple du bâtiment ou de la sécurité, qui travaillent avec les papiers d'un autre. Alors à Deliveroo comme partout ailleurs, oui aussi, il y a des sans-papiers qui travaillent ce qu'on appelle sous alias. Voilà. L'alias est un numéro, mais ça change rien. Je vois que effectivement, plus ça change et plus ça reste pareil. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. You wanted to add something?
Yes, I believe social media right now has the same contributions with how we disseminate information in regarding to our organizations. But aside from that, I believe both organizations are also thinking of activities wherein they could really invite people to be present so that they can concretely and directly know their experiences and show to the community that we are also united and we are here physically existing and struggling for our rights.
Alors, je voulais intervenir justement sur la question des médias, des réseaux sociaux, hein, et notamment de Facebook. C'est très intéressant parce que ça permet donc de faire circuler, de disséminer de l'information, d'entrer en contact. Mais dans nos deux organisations, hein, on voit chez les bikers comme chez les Philippins, il faut trouver des moments où on se rassemble physiquement les uns avec les autres pour partager et se montrer, avoir une présence physique les uns aux autres qui permet de se regrouper, de lutter, quoi, et de mieux connaître les conditions et les luttes les uns des autres.
Oui, je suis totalement d'accord. C'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est un peu ce que je disais quand je présentais le CLAP, que essayer de recréer. Nous, on n'est pas une communauté, mais du coup, essayer de recréer une expérience collective, quoi, une conscience de classe très concrètement. On est des prolétaires. Hein, tout ce qu'on a, c'est nos jambes, et on est payé 5 euros pour les 3 kilomètres qu'on va faire avec la force de nos jambes. Mais nous, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est essayer de dépasser un peu justement juste la lutte des bikers et essayer de regrouper d'autres précaires, des contrats aidés. Là, il y a des petits jeunes qui nous envoyaient un message qui veulent créer un groupe de stagiaires, un collectif de stagiaires pour défendre leurs droits. Il y a un collectif d'AED qui nous a envoyé un message aussi pour essayer de voir s'il y avait des choses à faire ensemble. Et du coup, je pense, enfin nous, on va essayer de venir mercredi à votre rassemblement, et ça peut être bien si vous venez aussi, si vous envoyez au moins une personne, peut-être pour essayer du coup d'échanger.
On va passer le message.
Et ça peut être du coup c'est cool, enfin je connaissais pas la lutte, donc c'est bien qu'on se retrouve là et que
voilà, Marie a déjà parlé de un des problèmes de la communauté philippine par rapport de la langue, en fait la langue française, et du coup c'est ça ce qui est difficile pour la communauté, parce que c'est difficile aussi d'avoir un aide. Parce que voilà, forcément, on parle pas français, quoi. Et moi, on essaye aussi, en fait, pour notre journal, on essaye de documenter l'expérience des Philippins sur une média un peu plus concrète, parce qu'on n'a pas forcément un nombre précise, un consensus des travailleurs ici en France, parce
le
que
mot census, c'est-à-dire en fait on n'a pas un recensement.
Recensement. Voilà, merci pour le mot. Et voilà, donc on espère que notre publication va être une espèce de documentation, en fait. Et du coup, ça commence à ça. Après, on peut avoir beaucoup de projets. C'est un début, un bon début. Et après,
voilà. We would definitely be in support as well of the struggles of CLAP. We see that there is really a common denominator of to what we are fighting for or our struggles are. We are fighting for recognition, respect for our labor. Mm-hmm. For us undocumented workers, it's for our existence as well, and basically for our workers' rights. Mm-hmm. So regardless, with the divide that probably the governments have been trying to make with the workers, despite the need for us to survive daily and work really hard, like Filipinos have a lot of work daily, sometimes even Saturdays it's already full, we will always definitely make time to join collective action and to support organizations like CLAP with their struggles as well, because it's all our struggle.
Okay. Alors, je vais devoir traduire cette ode à la convergence des luttes. Alors, je vais faire de mon mieux. Hein. Nous, on sent la même chose. Je sens très fort la nécessité que nos luttes se rejoignent. Pourquoi ? Parce que nous aussi, avec nos propres conditions, nous travaillons pour la reconnaissance de notre statut et de nos droits, la reconnaissance de notre travail, que ça veut vraiment dire quelque chose. Alors certes, les gouvernements vont chercher à diviser en catégories, d'un côté les sans-papiers, les Philippins, etc., et de l'autre les bikers, de l'autre encore les contrats aidés, etc. Mais en fait, tout ça, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que nous, on est souvent très pris avec notre travail et puis nos conditions. Et donc, on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais on essaie quand même, dans ces cas-là, de se donner le temps d'aller aux actions des uns des autres, surtout si on arrive à soutenir une organisation comme le CLAP, parce qu'on sait que tous ces contrats précaires, toutes ces situations difficiles et isolées, en fait c'est la même situation, c'est à peu près le même combat, avec quelques différences près, mais c'est moins important que de converger et de lutter ensemble, côte à côte.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la convergence des luttes, elle nous ouvre un peu les bras. Parce qu'en fait, on a exactement les mêmes droits, c'est-à-dire absolument aucun, quoi. Quand on se retrouve au travail, enfin cette offensive qu'il y a eu, on l'appelle néolibérale, capitaliste, peu importe, sur la destruction des droits des travailleurs et tout ça, justement, va permettre, je pense, une convergence des luttes qui n'était pas forcément possible dans des milieux plus traditionnels. Mmh. Ça se voit un petit peu, nous, avec du coup, on a réussi à faire une convergence européenne. Je sais pas trop les dernières expériences du monde traditionnel du travail qui ont réussi à s'organiser au niveau européen. Si vous arrivez à vous organiser avec d'autres travailleurs sans papier, d'autres communautés qui se parlent pas forcément à la base, et si des livreurs à vélo arrivent à discuter et à faire quelque chose avec des sans papiers qui travaillent à la maison, femmes de ménage, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Quasiment, je vais même dire inédit dans ces dernières décennies, quoi. J'ai peut-être pas assez de recul, mais
non, ça me semble intéressant. En tout cas, pour que ça marche, donc je rappelle les rendez-vous, hein, à 14h au métro Varennes, donc rassemblement des sans-papiers et de leurs amis de l'inspection du travail pour demander la régularisation de tous les sans-papiers, pour demander l'octroi d'un pouvoir de régularisation ou d'une capacité d'intervention de l'inspection du travail dans le processus de régularisation sur leur constat en situation de travail, et pour demander l'abrogation de la taxe OFI, hein, donc qui est la taxe sur la régularisation dont il faut se débarrasser le plus urgemment parce que c'est un véritable frein et c'est une véritable hypocrisie. Voilà, donc ça c'est à 14h, et donc à 19h30 au métro
Métro Sentier, on fait un rassemblement avec les livreurs de toutes les plateformes. Du coup, on invite vraiment à venir faire venir les gens de Uber Eats, de Stuart, de Foodora, pour revendiquer la fin du travail à la tâche et notre régularisation, parce que pour l'instant on est dans une zone grise du code du travail. On est à la fois ni salarié ni patron, on a juste les inconvénients de tous. Du coup, en finir avec cette zone grise, du coup, c'est-à-dire avoir le droit aux cotisations comme les autres salariés, avoir le droit à une véritable sécurité, un salaire décent, des conditions de travail qui soient notées sur un papier, pas travailler le dimanche soir de minuit à 1h pour 5 € de l'heure, c'est pas possible. Du coup, 19h30 au métro Sentier, mercredi soir.
Et ben voilà, il faudra donc réserver son après-midi et aller de l'un à l'autre, parce que de toute façon, c'est la même lutte, c'est les mêmes droits. Eh ben, c'était Secret de Fabrication, donc pour ce vendredi 22 septembre. Nous vous remercions d'avoir écouté. J'espère que ça a donné beaucoup d'idées aux gens. N'oubliez pas que les podcasts de l'émission sont disponibles très rapidement sur le site de Mode d'Emploi, hein, l'émission qui héberge notre format. Voilà. Merci bien et dans un mois.
russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet.